Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks.
Et non, nous ne sommes pas des terroristes, en tout cas toujours pas Divergence Numérique, votre émission sur le libre, les logiciels libres, une émission numéro 18 de cette saison 8 où la 98e, la 100e arrive à grands pas, hein, n'est-ce pas Gilles de l'autre côté de la vitre ?
Et oui, bonsoir Pascal, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Divergence FM ou sur le flux internet de cette même radio ou sur même les ondes de Radio Escapade pour ne pas les nommer.
Et oui, tout à fait, que ce soit le 93.9, que le 103.3, que le 104.1, j'ai encore révisé cette semaine.
Alors vous savez, il n'y a pas que le libre dans la vie, c'est quand même vrai. Il y a aussi le festival Montpellier à 100%. Aussi, c'est passablement débordé et à l'arrache que nous prenons l'antenne ce soir. Et on va pas vous raconter tous les travaux de cette radio et la fabuleuse histoire de nos trous de chaussettes. Bref, on va pas faire de troll. Alors pour ceux qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, ce sera notre fil conducteur. Mais bien sûr, nous aurons l'indispensable et beaucoup plus sérieuse revue de presse de l'April présentée par nos amis...
Luc Chévier et Emmanuel Charpentier, donc deux membres de l'April qui nous font toutes les semaines la revue de presse de l'April, april.org.
Et puis donc après ce sera de la musique qui n'est pas sans lien avec le sujet du jour, évidemment. Le troll, non pas celui qui hante actuellement les grands écrans et la Scandinavie, mais bien celui qui se répand parfois sur le réseau.
Et les pauses musicales seront donc faites, ou disons piochées sur le portail musical dogmazic.net avec le label Don't Feed the Troll, justement, qui va très bien pour cette émission.
Une émission donc qui commence, comme vous l'avez bien compris, par les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Et donc, ça va être la revue de presse de l'April que, malgré notre débordement et tout ça, on a quand même trouvé le moyen d'habiller de quelques petites virgules sonores. On attendra pour une autre émission un générique vraiment couillu pour cette revue de presse, Pascal.
Oui, revue de presse de l'April, donc présentée par Emmanuel Charpentier et Luc Fievier, que nous remercions pour leur périodicité,
leur régularité
dans ce travail pour le moins nécessaire.
Et leur talent, évidemment.
Revue de presse de l'April, semaine 6 de l'année 2011. Bonjour Manu.
Salut Luc.
Bien, aujourd'hui, un sommaire des plus intéressants, pour utiliser ton expression favorite. Boule de cristal, ils conjuguent leur désespoir, une clé pour étudier, Besson neutralise le net, l'Afrique et les biens communs, les anonymes associés, et antitrust, la commission perd son sang-froid. Donc la boule de cristal.
Alors, article indexel.net, logiciel, 5 tendances clés pour les années à venir de Antoine Robin, et la boule de cristal est lue par c'est Gartner, le groupe Gartner, qui fait des prédictions sur 5 axes et 5 tendances qui vont arriver dans le futur. On peut rapidement citer de quoi il s'agit. La consolidation, la verticalisation, le déploiement, la modernisation et la collaboration. Hein, c'est intéressant, on comprend tout de suite exactement de quoi il parle. Non, ce qui est intéressant, c'est la modernisation où le logiciel libre est cité comme un axe majeur qui permet aux entreprises de se moderniser et de faire évoluer leurs infrastructures logicielles en recodant quelque chose et en se basant sur des biens communs.
Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils doivent renouveler leurs infrastructures, leurs équipements informatiques, ils ont aujourd'hui des vieilles solutions propriétaires qui coûtent cher mais ils disent quitte à les remplacer, autant passer sur quelque chose qui a priori devrait leur coûter énormément cher. En tout cas, Gartner considère que c'est une stratégie qui va être employée, que c'est un argument de poids. Il cite également les questions de collaboration là, qui sont intéressantes également.
Oui, réseaux sociaux, il n'y a rien de tel. Moi, de ce que je retiens de tout ça, c'est que là, c'est le big guru qui est en train de citer notre chose favorite, les logiciels libres, qui les met en avant et qui dit que voilà, il faut aller vers là pour le futur. Et ça, si Gardner dit, tout le monde va suivre.
Nécessairement.
Ils conjuguent leur désespoir. Alors,
Alors bon, ce sont deux amoureux absolument désespérés. L'un s'appelle Nokia et l'autre Microsoft. Donc article de businessmobile.fr, Nokia et Microsoft confirment leur partenariat autour de Windows Phone 7 par la rédaction.
Ouais, une news qui m'a estomaqué, qui est tombée en fin de semaine dernière. Donc Nokia, le constructeur de téléphones mobiles, le plus gros du monde, et Microsoft, un des plus gros du monde pour autre chose. Et bah, ces deux, comment on pourrait dire, has-been, qui sont vraiment, qui ont raté le coche sur les téléphones modernes et les smartphones.
Alors has-been dans le domaine en question. Hein.
Dans le domaine des smartphones. Hein. Microsoft, c'est 3% de part de marché, alors qu'ils ont l'habitude de plutôt flirter avec les 95% sur d'autres marchés. Nokia, bah, c'est les anciens énormes, toujours énormes parce qu'ils ont Symbian, un système d'exploitation libre. Ils étaient en train de faire Migo, un autre système d'exploitation libre basé sur Linux, donc sympathique.
Alors Symbian, il avait refermé, on en avait parlé il y a quelques semaines, et tu avais dit que c'était pour laisser la place à Migo, et ceci et cela. Alors tu racontais n'importe quoi en fait.
Ouais, refermé, refermé. Ils ont fermé la page de Symbian, parce que Symbian bah, avait fait son temps, hein. C'était un logiciel libre, tout ce qu'il y a de libre, mais bon, bah, au bout d'un moment, on passe à autre chose, ils avaient arrêté, ils n'avaient pas réussi à fédérer d'autres boîtes qui font des téléphones portables, et ils s'étaient passés à, bon, en tout cas c'est ce qu'on pensait, ce qu'on avait vu à Migo, développé en partenariat avec Intel et AMD, un truc des plus intéressants, mais là, non, raté. C'est passé en deux phases. Ils ont d'abord acquis comme PDG, donc à Nokia, ils ont pris un des anciens de Microsoft. Et puis, deuxième phase, qui est tombée la semaine dernière, bien, le PDG de l'ancien directeur de Microsoft, hein, le nouveau PDG, il a fait des siennes. Il est revenu voir son papa, Monsieur Ballmer, pour faire un accord, tout ce qu'il y a d'officiel, médiatique, qui fait pas plaisir à tout le monde, mais bon.
Non contractuel quand même.
Ah oui, ça c'est les petits trucs. Donc tout le monde en parle, ça fait vraiment jaser sur le net, c'est incroyable. Mais effectivement, quand on regarde les petites lignes en bas, on se rend compte que leur accord, c'est vraiment beaucoup de mouvements pour pas grand-chose. C'est pas contractuel, il n'y a rien derrière qui va nécessairement en sortir. Alors ça fait bouillir les têtes. Les employés de Nokia, y en a beaucoup qui sont furieux. Ils sont furieux parce que Symbian, ok, c'était un peu la fin, ça allait pas très bien. Mais toutes les équipes qui travaillaient sur Migo, et il semblerait qu'ils étaient nombreux, de l'ordre de 1000 personnes, et bien là, leur futur est vraiment remis en cause.
Alors Migo disparaît pas pour autant, ça passe sur open source, comme ils disent.
Ouais, ils vont faire une fondation, un truc dans le genre, mais bon, ouais, voilà. Non, ils le gardent pour voir l'avenir.
Alors bon, une décision financière qui a eu son effet, puisque le jour de la déclaration, l'action de Nokia a baissé de 15%.
Ouais. J'avoue que pour des financiers, c'est moche. Non, mais là, ils se donnent une année de réflexion pour rebâtir Nokia sur des fondations solides. Windows Mobile 7, non, ça peut pas être mieux que ça. On va voir.
Alors, il va y avoir du délai parce qu'il faut quand même 12 bons mois, c'est ça, hein, pour que on puisse voir des téléphones Nokia avec du Windows Phone dessus. Et donc, il va y avoir un vieux trou, surtout que les autres constructeurs de téléphones qui étaient tentés d'utiliser Windows ont plutôt tendance à s'en débarrasser. Donc une stratégie un peu casse-gueule. Nokia, une entreprise un peu particulière. On sait qu'en termes de brevets logiciels, c'est parmi les plus gros prometteurs et des lobbyistes les plus influents sur la question, sur la reconnaissance des brevets logiciels en Europe. Donc des gens pas très sympathiques.
Ouais, comme je disais, quand on est has-been, on essaye de se rattraper par tous les moyens possibles. Et Microsoft, ils font pareil hein, sur plein de trucs. Les brevets logiciels, c'est un moyen un peu traître hein, d'attaquer des gens qui ont des idées en te basant et en disant non, j'ai eu la même avant, mais bon, rien à voir. C'est pas grave, je vais te faire chier avec des avocats. Non, donc là, ils vont peut-être essayer, on va voir. Mais bon.
Bon, dans le domaine, les prédictions sont toujours très difficiles, hein, sauf pour Gartner, bien sûr, qui a une boule de cristal. Mais bon, ça se trouve, on va se planter et ils vont tout casser. Mais on espère que non, finalement.
Ouais, enfin, sans aller dans les prédictions, il y a une certitude, c'est que là, ce qui casse la baraque, c'est Android. Android, derrière, c'est Google. Et eux, ils ont vraiment évolué de manière énorme. Il y a beaucoup de constructeurs qui sont derrière et ils font des jaloux, mais c'est incroyable. Donc là, de nouveaux jaloux qui se mettent ensemble.
Donc, une clé pour étudier.
Article mediaetudiant.fr. Travailler gratuitement et partout grâce aux solutions Framasoft de Smellycat. Petit article, mais bon, qui fait toujours plaisir d'un certain point de vue. Le point de vue, c'est que les étudiants, on leur montre un nouvel outil pour mettre sur l'ordinateur, une clé Framasoft, une Framaki, sur laquelle il y a, ça doit être 900 logiciels par défaut, il me semble, c'est ce qu'il y avait dans l'article, et la possibilité d'en installer jusqu'à 15 000, donc quelque chose d'assez considérable, c'est bien, mais d'un autre côté...
L'article a le mérite d'exister. Ça parle aussi de Framasoft, le site avec cette collection de logiciels testés, de logiciels libres, qui est une ressource très très intéressante. La Framaki, donc on peut booter sur n'importe quel ordinateur et avoir une sorte de bureau mobile, et avec des applications préinstallées, donc c'est vachement bien. Et puis c'est bien que ce soit pour les étudiants, parce qu'on sait que Microsoft notamment met le paquet en termes de pub et de promotion pour les étudiants, parce qu'il faut les prendre tôt pour qu'ils soient habitués aux produits Microsoft. On a vu ça ce week-end à l'AG de l'April, on était hébergés dans une école d'ingénieurs, et il y avait sur les murs des pubs Microsoft pour les étudiants partout. Donc un article intéressant qui apprend rien de nouveau, mais qui en tout cas montre que les étudiants ont des moyens, que le libre leur apporte quelque chose.
Bon, je rejette un œil sur l'article. Hein. Donc c'est 1500 logiciels qui sont accessibles avec la Framaki et 90 par défaut sur toute clé. Dans le petite chose qui chagrine un petit peu, c'est qu'ils mettent en avant le côté gratuit de la Framaki, mais bon, et des logiciels qui sont dessus, mais bon, c'est pas si mal. Hein. Les étudiants sont fauchés.
Oui, non, puis en plus ça, quand on n'a pas des convictions fortes, c'est un argument de poids, et après ça, on peut apprécier la liberté pour elle-même.
Liberté, égalité, fraternité.
Alors, Besson neutralise le net ?
Donc, article du Monde.fr, Éric Besson, la neutralité du net et les autoroutes de l'information par la rédaction. Donc, ça fait référence à un discours tenu par Éric Besson sur la neutralité du net. Donc, il dit que la neutralité du net, c'est très bien tout ça, et en fait, ce qu'il décrit, ça y ressemble pas des masses.
Non, c'est même le contraire. Hein, je veux faire ça, mais en fait, ou voir le contraire. Il se base sur l'idée des autoroutes de l'information. Vous comprenez, sur les autoroutes de l'information, il y a bien certains véhicules qui sont prioritaires. Hein, donc, on va faire pareil sur les autoroutes de l'information. On va prioriser certaines choses. Et ça, eh bien, c'est le contraire de la neutralité du net. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus.
Voilà, donc l'idée, c'est de mettre de prioriser le passage de la téléphonie et de la télévision, ce qui est un peu étrange sur Internet. Voilà. Alors, il y a déjà des gros biais sur cette question de neutralité du net par l'ADSL, ce qui veut dire asymétrique. Donc DSL, on va pas rentrer dans le détail sur ce que c'est, mais ce qui veut dire que vous pouvez télécharger plus que ce que vous pouvez renvoyer vers Internet. Et cette asymétrie, elle n'a aucune justification technique, c'est une justification purement commerciale et qui, de base, met un biais dans le rapport au réseau. Et avec quelque chose de parfaitement symétrique, on pourrait avoir du fonctionnement peer-to-peer. Aujourd'hui, on a un déséquilibre avec des très gros acteurs comme YouTube ou ce genre de choses. Ça fait des déséquilibres et un réseau qui fonctionne mal. Et toute cette logique de peer-to-peer et de répartition qui correspond complètement à la logique d'Internet, elle a été cassée. Et voilà, donc Besson veut la casser encore plus.
Oui, hein, il veut favoriser, alors là je cite, hein, la téléphonie et la télévision sur IP. Le fait que ce sont des services qui sont purement... un vieux service, une vieille infrastructure et un service de consommation pure, ça doit correspondre à l'état d'esprit de certains politiques. Hein, et on ne change rien, on continue. Et puis, il se base sur l'idée que tous les ans, la bande passante utilisée par Internet est augmentée de 50%. C'est vrai que c'est un gros chiffre, mais ce n'est pas un nouveau chiffre. Ça fait bien 15 ans que c'est le cas, si ce n'est plus. Et pour l'instant, les infrastructures ont suivi. Et moi, je sais de certaines sources que dans nos trottoirs et sous nos infrastructures urbaines, il y a encore beaucoup, beaucoup de fibres noires, c'est-à-dire des fibres optiques qui ne sont pas utilisées. Il n'y a pas de lumière qui transite dedans. Donc, il y a de la marge. Il y a vraiment de la marge. Et puis surtout, il faut investir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on va éviter de faire des lois, surtout qui cassent la neutralité et qui favorisent certains acteurs plutôt que d'autres.
Puisque parallèlement, l'OPSI nous a fait aussi le filtrage d'Internet pour les fameux pédos nazis. Donc voilà, c'est en train d'être bordé de tous les côtés. Donc ça parle aussi financement avec ce qu'ils appellent donc la taxe Google, qui consiste à aller demander de l'argent aux fournisseurs de services, et notamment Google avec YouTube et le moteur de recherche, et Facebook également. Et avec le fait que ces entreprises ne déclarent pas leurs bénéfices en France et que donc il est normal qu'on les taxe.
Oui, hein, quel dommage quand on pense à la Légion d'honneur qui a été offerte à Microsoft il n'y a pas très longtemps, enfin à un des dirigeants.
Ouais. À Steve Ballmer, hein, donc Légion d'honneur, sachant que Microsoft déclare ses bénéfices en France, en Irlande, et paye pas grand-chose non plus, ils sont nombreux à le faire, mais bon, on aurait bien aimé qu'il y ait un petit peu de cohérence au niveau de ces reproches.
L'Afrique et les biens communs.
Donc un article de westaf.com, Fracture numérique, la solution dans les logiciels libres, selon un expert malien, par la rédaction. Donc là, aucune information révolutionnaire, c'est donc un expert africain qui s'appelle Monsieur Dembélé, qui s'exprimait donc lors du Forum social mondial qui se tenait à Dakar, là, début février. Et donc il cite tout ce qu'on connaît déjà sur le logiciel libre, tous les avantages que ça présente, et en soulignant que c'est particulièrement favorable aux pays d'Afrique noire qui sont peu équipés, que ce soit en Internet ou en informatique. Donc voilà, c'est intéressant de voir cette petite mise en perspective. Les anonymes associés.
Article lemonde.fr. Qui sont les Anonymous, de Jean-Philippe Bichard. Donc un article qui exprime et qui parle des Anonymous, c'est un groupe de hackers ou soi-disant hackers qui sont en train de défendre le site Wikileaks.
Alors c'est un article, c'est en fait une sorte de courrier des lecteurs, un petit peu bien documenté, chronique d'abonnés. Alors bon, il y a plein de fautes de frappe et de trucs dedans, mais bon. Passons, ça revient sur les Anonymous. Le gars connaît son sujet, hein, parce qu'on a dit énormément de bêtises là-dessus. Sur le fait notamment que c'était des grands pirates et tout ça, on sait que les Anonymous, c'est plutôt des utilisateurs vaguement éclairés. Hein, les vrais hackers les appellent les scripts qui disent qu'ils ont mené toute une série d'actions, notamment contre Mastercard, PayPal, etc., qui pendant l'affaire de Wikileaks, ont bloqué les paiements. Parce qu'en gros, en vous interdisant de faire ce que vous voulez de votre argent, ce que je trouve assez fabuleux. Ils ont également attaqué les sites officiels de Tunisie en Égypte. Donc voilà, en expliquant que c'est une sorte de groupe informel, il n'y a pas vraiment de tête derrière, et qui agissent et qui font comme ça des actions sur Internet.
Oui, c'est des petits jeunes, mais bon, moi je suis assez content qu'ils existent. C'est bien, même si ce qu'ils font, c'est pas forcément bien. On est encore en train de. On y réfléchit du côté du logiciel libre. On ne sait pas encore si c'est vraiment juste un sitting, une manifestation, ou si c'est plus un truc un peu plus actif. Faut voir.
Voilà, bon, après ça, autant quand ils attaquent les sites des banques, ça leur fait perdre de l'argent, parce que eux, le temps, c'est de l'argent. Bon, je pense que pouvoir tunisien ou égyptien, hormis l'image, ils ont d'autres choses à fouetter que remettre en place leur site internet. Mais bon.
Antitrust, la commission perd son sang-froid.
Exactement. Donc, un article de ZDNet.fr, Antitrust, Google veut éviter une longue bataille juridique en Europe par la rédaction. Google est mis en cause essentiellement sur le fait de favoriser ses produits dans son moteur de recherche. Donc c'est intéressant parce que Google avait cette politique où il disait « don't be evil », donc ne soyez pas méchants, soyez pas vilains, et mettait en avant qu'ils ont favorisé le logiciel libre, qu'ils n'enferment pas les utilisateurs dans leur fonction, etc. Et ce qui n'est pas complètement faux, mais en même temps, ils ont quand même atteint une situation dominante de monopole dans certains domaines, et ils savent également jouer la fermeture quand ça les arrange. En tout cas, ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'ils disent qu'en gros, ils veulent éviter de rentrer dans des procès fleuves qui vont leur coûter des milliards, comme ont pu faire Intel ou Microsoft, où eux n'ont rien voulu lâcher, l'ont joué bourrin, et se sont pris quelques milliards dans les dents.
Oui, on pourrait dire que Google, c'est facile de changer de moteur de recherche, donc ils ont besoin de la sympathie de leurs utilisateurs, ils en ont nécessité, et effectivement, ils font des bonnes choses. Hein. Le logiciel libre, ils y contribuent énormément, et puis là, ils font du Android en ce moment, on en parle, c'est génial, mais justement, ils marchent vraiment trop bien au Google, ils vont s'en prendre plein là-dedans, moi je te le dis.
À suivre. Bah, merci, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine, mes amis.
Et oui, merci Emmanuel Charpentier et puis Luc Chévier de l'April, april.org, l'association pour la promotion du logiciel libre, une revue de presse que vous retrouvez sur leur site april.org et puis sur dogmazic.net également.
Voilà, et puis à présent, il nous reste largement le temps d'évoquer, comme on le disait, hein, le sujet du troll, dont l'actualité cinématographique est totalement fortuite, disons-le.
Ah bon ?
Mais si on va voir sur Wikipédia, on apprend que dans la mythologie nordique, le troll est un être vivant dans les montagnes ou les buttes. Bergtroll, ce sont des géants incarnant les forces naturelles au même titre que les titans. Odin avait dû tuer Ymir, le géant dont il était né, pour assurer le règne des dieux et des hommes selon un scénario rappelant la castration d'Ouranos par son fils Cronos et la victoire des dieux olympiens sur les titans. Les trolls étaient des géants qui avaient surgi du corps d'Ymir, ils symbolisent les forces naturelles dans leur énergie élémentaire. Mais au-delà de ça, on va dire c'est le caractère teigneux et un peu finalement
provocateur,
voire même mal poli, ça colle très bien, qui a donné son origine au sens informatique, etc., qu'on lui connaît et qu'on va évoquer ce soir.
qu'on va évoquer ce soir, mais juste avant, on va se faire quand même une petite respiration musicale quand même avec un label pioché sur dogmazic.net et qui colle très très bien. Don't feed the troll, ça veut dire ne nourrissez pas le troll, vous saurez pourquoi. On va écouter Teardrops du groupe Board of Galaxy en licence C-Réaction, extrait de l'album Galaxies Are Dead.
Ma foi, assez atmosphérique ce morceau.
Et oui, puisque ce sont des larmes de pluie, teardrop, des larmes, tout simplement.
Des larmes, tout
pourquoi,
simplement.
Pourquoi des pluies ? Parce qu'il pleut peut-être sur Montpellier. En tout cas, c'était le groupe Boards of Galaxy en licence Réaction. C'est Réaction, une licence qui représente 7,1% des morceaux sur dogmazic.net dont est pioché cette musique. Et c'était extrait de l'album Galaxies. Are dead. sur le label Don't Feed the Troll, dont il est question.
Don't Feed the Troll, ne nourrissez pas le troll. Donc en termes d'informatique, ça provient de l'expression trolling ou pêche à la traîne, qui est une ligne munie d'hameçon, à ne pas confondre avec le trawling, qui est la pêche au chalut, un grand filet en forme d'entonnoir. Les remarques polémiques constituant un troll étant considérées métaphoriquement comme des appâts destinés aux contributeurs qu'on veut hameçonner. Les personnes se rendant coupables de trolling ont été appelées progressivement des trolls, en allusion aux monstres de la mythologie nordique auxquels nous faisions allusion dans un autre article Wikipédia. Par ailleurs, dans le jeu Donjons et Dragons, les trolls ont une capacité de régénération. Les membres découpés repoussent en quelques heures. La comparaison avec les fils de discussion qui se multiplient et les profils recréés quasi instantanément est d'autant plus judicieuse. Même en espagnol, il existe un mot voisin attesté dès 1883, trolla, qui signifie bobard.
Mais pourquoi lancer un troll alors? Les objectifs d'un troll peuvent être multiples et variés, allant du simple jeu à la volonté d'imposer ses idées d'amusement pur et simple, ou même à la tentative de détruire l'intérêt d'un forum ou d'une discussion visée par ses actions. Par censure, certains forums sont financés par la publicité et ont besoin d'activités pour générer des revenus. Le lancement et l'encouragement de trolls sont alors effectués directement par le gestionnaire du site, donc une auto-alimentation du forum par exemple. On distingue en général deux catégories intentionnelles, le troll bénin et puis le troll malin.
Voilà, alors le troll bénin, le troll malin, ça répond à, on va dire, à ce qu'on trouve aussi sur le label, la page dogmatique du label Don't Feed the Troll, où il distingue le troll débutant, le troll bête et le troll méchant, en précisant à l'avance que faire face à un troll. Jeter un dé de 10 et utiliser sa hache à deux mains ne vous servira ici à rien. Dans l'absolu, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire contre un troll, si ce n'est d'user de sa stupidité pour le vaincre. Essayons tout de même d'esquisser quelques stratégies relatives aux catégories de trolls. Donc le troll est déjà catégorisé, que ce soit en troll bénin ou en troll malin, des catégories que l'on peut déjà qui se correspondent en fait, puisque Wikipédia nous dit le troll bénin dit aussi troll newbie, le newbie c'est celui qui vient juste d'arriver, ou troll bête, ou flodder, celui qui inonde, du verbe anglais inonder les forums, etc. Ou pulsar, désigne simplement un internaute immature dont la conversation, généralement envahissante, n'est ni très pertinente ni très polie et engendre de nombreuses discussions inutiles. Il existe également un parallèle fort avec l'emploi généralisé du langage SMS et des majuscules, ainsi que le non-respect de l'orthographe. En ce qui concerne le non-respect de l'orthographe, j'aurais tendance à dire qu'il se généralise même sur les sites commerciaux les plus prestigieux ou la presse la plus réputée, dirons-nous.
Alors après, une autre catégorie, c'est le troll malin, un petit peu plus subtil, qui désigne donc un internaute qui cherche volontairement à déstabiliser les procédés de communication. Il comprend en général très bien le fonctionnement d'Internet et il sait qu'il est très facile de s'en servir pour manipuler ou provoquer. Donc il considère souvent l'espace de discussion sans autre intérêt que celui que peut représenter un jeu de rôle. Le but recherché est alors de faire vivre un personnage imaginaire, de gagner de la considération ou du respect en s'attribuant de fausses compétences ou en marquant des points sur d'autres intervenants arbitrairement considérés comme des adversaires pour le déroulement du jeu, entre guillemets, donc du troll qui est lancé. Évidemment, certains intervenants utilisent plusieurs personnages virtuels afin de les renforcer entre eux ou de soutenir le personnage principal. Donc on voit très bien la corrélation avec le jeu de rôle. Lorsque le personnage principal est découvert et banni ou en manque de prestige, le troll crée un nouveau personnage pour s'y substituer.
Et puis l'autre visage de ce troll malin, qui n'est que rarement compris par ses adversaires, est de dénoncer par l'ironie et l'absurde des comportements pouvant porter à polémique. Ainsi, sur le réseau social Facebook, des trolls tournent en dérision la diffusion publique par certains parents d'images de leurs enfants ou la prolifération d'images hommage mettant en avant des personnes mortes récemment. On note également que le troll malin n'a que rarement besoin d'insulter ou de devenir vulgaire pour provoquer. Les réponses agressives des personnes provoquées ont pour effet d'amuser le troll qui les poussera de façon subtile et ironique à se ridiculiser encore plus. Nous traiterons peut-être le cas du troll pervers après une autre pause musicale, Pascal.
Oui, une autre pause musicale pour ne pas nourrir justement le troll. Don't Feed the Troll, c'est le label en question dont sont extraits les pauses musicales avec un autre groupe de ce label, c'est The World Ponies, avec le titre See on My Lips. Si comme la mer, S-E-A, en licence C-Réaction, extrait de l'album We Want to Be Horses, nous voulons être des chevaux.
La mer sur les lèvres des poneys étranges.
Et oui, c'est le groupe The World Ponies, les poneys étranges, effectivement pioché dans dogmasic.net et surtout dans le label Don't Feed the Troll. Ne nourrissez pas le troll dont il est question dans cette divergence numérique sur Divergence FM 93.9 et Radio Escapade 104.1, 103.3.
Et nous saluons au passage ceux qui nous écoutent peut-être de l'autre côté de l'océan Atlantique,
aussi,
au
sur
Québec.
Sur nos paquets IP encore non filtrés, heureusement.
Oui, voilà, heureusement. Nous poursuivons notre visite du troll. Alors, on détaillait version Wikipédia les catégories de troll classiques qu'on retrouve sous une autre prose, sur la page Dogmasic du label Don't Feed the Troll, qui dit que le troll débutant, avec lui, il vaut mieux tenter la pédagogie, genre Mailer Demon est ton ami, Mailer Demon ne pas se foutre de ta gueule. Si le troll débutant est persévérant, oui, mais enfin bon, il pourrait me répondre poliment, ce monsieur démon. Il est tout à fait légitime d'utiliser l'insulte et la coupure d'accès. Le troll est banni du forum. En tant que débutant, il a du mal à recréer des adresses e-mail bidons. Pour la petite histoire, cette méthode à la dure a bien fonctionné sur les abonnés d'AOL en 96-97, certains administrateurs de forum ayant même interdit l'accès aux adresses en @aol.com.
Et oui, le troll bête aussi, pédagogie toujours, essayer par des explications de démonter la nullité conceptuelle et le hors-sujet. Mais gentiment, avec humanité, dirons-nous, difficulté, le troll bête est par définition donc convaincu de l'intérêt de ses contributions pour le futur de la démocratie. Et puis en cas d'échec, l'humiliation publique peut s'avérer payante. Il est conseillé de s'y mettre à plusieurs, de répéter la manœuvre dans un intervalle de temps très court et d'user d'une ironie violente et saignante. Sinon, vos messages risquent de provoquer l'effet inverse et de devenir eux-mêmes source d'interminables débats oiseux. En particulier, l'intervention ne doit laisser aucun doute dans son but, l'humiliation violente, publique et immédiate. Cette stratégie vous autorise à afficher le logo « Attention, admin méchant ».
Et puis alors justement, méchant, bah le troll méchant, la règle traditionnelle pour lutter contre un troll méchant consiste à ignorer ses messages. Do not fear the troll, le nom du label, dit l'adage. Cependant, sur les forums du web et les mailing lists dont la plupart des usagers n'ont aucune connaissance de la netiquette, il est illusoire de croire que personne ne va répondre.
Certains coups particulièrement tordus sont parfois utilisés, certains étant eux-mêmes inadmissibles. On peut par exemple supprimer non le message initial du troll qui immédiatement relancera le débat sur le thème de sa liberté d'expression, mais en sucrant toutes les réponses à ce message, quitte à expliquer en privé aux auteurs de ces réponses le pourquoi de la manœuvre. On assiste parfois à cette méthode ordurière qui consiste à lever l'anonymat du troll en révélant sa véritable identité.
Mais il semble que si l'on veut maintenir des forums ouverts, les messages sont publiés dès qu'ils sont envoyés, face à un troll, la seule technique est la guerre des tranchées. Plusieurs administrateurs surveillent quasiment en permanence les forums pour bloquer aussi rapidement que possible les dérives trollesques. De fait, un administrateur isolé n'aura jamais le dessus face à un troll déterminé, car ce dernier est ainsi configuré qu'il est plus souvent sur le forum que l'administrateur lui-même. D'ailleurs, un très grand nombre d'administrateurs de forums ou mailing list isolés, après plusieurs passages de trolls méchants, passent carrément en liste modérée a priori, montent des coopératives d'achat solidaire de Valium ou militent à la NRA. On constate malheureusement que plus un webmestre est expérimenté, moins il sera favorable à la présence de forums sur son site ou de mailing list ouverte.
Alors, il y a des règles de survie minimales face aux trolls. Ne jamais sembler donner raison aux trolls. Par exemple, proscrire tout message qui commence par « Sur ce point, tu as raison, mais… » ou « La question est intéressante, mais… » pour la bonne et simple raison que le troll ne suit jamais les règles de la discussion. Définition de termes, échange d'arguments, réponse aux questions.
Ne jamais tenter d'arrondir les angles par des mails privés, car ils seront toujours utilisés pour montrer la duplicité des admins ou comme témoignage fictif d'une connivence avec un autre intervenant. « Machin m'a écrit pour me dire que… »
Ne jamais laisser les trolls se multiplier, sinon ils saccagent votre espace. En ce sens, effectuer un marquage plus ou moins rude pour pouvoir reconnaître du premier coup d'œil que le troll, lorsqu'il revient, est y compris sous une autre identité.
Se faire à l'idée que le troll peut avoir le dessus. Si vous pensez que votre forum résistera indéfiniment aux attaques trollesques, qu'il sera toujours un royaume de paix et de respect, vous vous préparez à devenir un admin aigri. Et l'admin aigri devient rapidement un troll sur son propre forum, ce qui n'était pas le but initial du bidule.
Et puis si votre forum devient très actif, n'hésitez pas à vous faire aider par son administration. Pour son administration, pardon, isolé, l'admin s'use très très vite et lorsqu'il y a plusieurs administrateurs, il convient de définir quelques règles minimales dans les gestions du forum. En effet, rien de réjouit plus que le troll que les contradictions entre administrateurs.
Voilà, rien ne le réjouit, ça c'est une coquille qu'il faudra que nous disions à nos amis de ce label, Don't Feed the Troll, de corriger. Donc vous l'aurez compris, le troll n'est pas qu'un grand géant qui vous veut du mal, c'est aussi parfois juste des gens qui ont du temps à perdre, on va dire, sur Internet, pour faire perdre le leur aux autres, finalement.
Alors on va parler de... de différents sujets de trolls classiques, parce qu'on en parle, mais qu'est-ce que le troll ? Il faut donner un peu de matière. Et puis, le troll, on a dit que c'était un monstre dans la mythologie et dans les jeux de rôle. Et bien, justement, Monster, c'est le titre que l'on va écouter avant de se retrouver pour parler donc d'exemples de trolls. Donc, Monster, par le groupe The Silly Things, en licence C-Réaction, extrait de l'album I Guess It's Wonderland sur le label Don't Feel the Troll. Et voilà, ça se termine comme ça. C'est Monster par le groupe The Silly Thing en licence.
Silly Thing, c'est pas facile à dire. Ça veut dire cette chose stupide. Et contrairement à ce que leur nom pourrait laisser à croire, ce sont des Toulousains.
Oui, tout à fait. Ou une Toulousaine en tout cas. Licence C-Réaction, album I Guess It's Wonderland. C'est extrait du label Don't Feed the Troll.
Voilà, ne nourrissez pas le troll, nous on le nourrit, enfin en tout cas on vous le présente pour ceux qui l'ignoraient. Ce troll qui sévit sur les réseaux informatiques et vous fait perdre votre temps et parfois mettre même votre patience puisque pour poursuivre un petit peu ce qui s'y passe, souvent les discussions finissent par peut-être finir par atteindre une certaine violence. On dit qu'une discussion s'enflamme lorsque les échanges se multiplient entre les participants et que le ton monte. L'origine du conflit, si conflit il y a, n'est pas forcément un troll ou tout du moins n'est pas forcément un troll volontaire. On ne parle de troll que lorsqu'on pense avoir décelé une volonté de polémiquer allant au-delà de la volonté d'avancer dans une discussion. Alors plusieurs méthodes d'action du troll qui vont de la simple insulte au flood, auquel on reviendra en passant par diverses démarches.
Diverses démarches telles que, par exemple, ne jamais être d'accord sur quelques sujets, que ce soit à l'inverse. l'être systématiquement. Le but n'est alors pas de donner son avis, mais d'alimenter la polémique.
Quelque chose qu'on retrouve finalement dans la vie sociale aussi. Tout le monde a dans ses relations des gens qui sont jamais d'accord sur rien.
Voilà, ne jamais être d'accord donc avec son interlocuteur considéré comme gênant, le traitant de fake, d'inculte, de naïf, voire de troll.
Ou faire des allusions à un débat voisin, mais hautement polémique. Par exemple, allusion au conflit israélo-palestinien dans un débat sur la politique égyptienne, par exemple.
Des attaques sur la forme, par exemple, commencer les réponses avec l'expression « c'est n'importe quoi ».
Ou être hors sujet, attaque personnelle, détournement du fond du débat.
Ou faire du double discours.
Des sous-entendus menaçants.
Des insultes visant un groupe de personnes définies par leur nationalité, religion, opinion politique, etc. et permettant de déclencher de nouvelles interventions.
Ou procès d'intention, délation, diffamation, bluff, sophisme.
Autodérision, de façade pour camoufler des intentions malveillantes.
Ou de la moquerie fraternelle, private joke, mélange de flatterie envers les uns et injures envers les autres pour s'attirer à la fois alliés et ennemis. Lorsque le but du troll est le jeu ou la provocation, il tente de maximiser son nombre d'adversaires. Au contraire, s'il est déterminé à nuire, il va tenter d'avoir un maximum d'alliés et d'isoler sa victime.
Ou d'isoler sa victime.
Parler par slogan aussi, une méthode aussi utilisée par le troll qui souhaite envenimer une discussion, le ramenant par là même à une forme simpliste de débat, du débat de départ, quoi.
Ouais, j'ai perdu le troll, moi. C'est le troll de mes lignes, voilà.
Mais c'est bien, parce que des fois, on perd le troll, mais le troll est gros et il fait du bruit quand il marche.
Voilà, gros, on dit que c'est un troll velu. Voilà, c'est comme un monstre, hein. Donc plus il a de poils, plus il est velu. Alors des sujets de trolls classiques, alors dans le folklore d'Internet et de Usenet c'est tout ce qui est forum, c'était comment on appelle ça, les news groups, c'est les listes de nouvelles, les groupes de nouvelles, les forums tout simplement. Certains sujets polémiques sont réputés pour des débats sans fin qu'ils engendrent, ceci généralement fondé sur des préférences personnelles sur lesquelles il est impossible de trouver un compromis de toute façon, qui peuvent être donc utilisés afin de lancer un troll. Par exemple, parmi les utilisateurs des systèmes Unix ou GNU, les serpites éternelle querelle entre les partisans de l'éditeur de texte VI et ceux de l'éditeur de texte Emacs en font un sujet de troll classique.
Où moi je préfère les Audi et toi tu préfères les Volkswagen. Enfin bon, c'est quand on essaye d'argumenter sur les goûts et les couleurs, pourrait-on dire.
Disons, on défend son « Ah, le tien est plus mauvais que le mien que j'utilise », voilà. Il en est de même en matière de préférence d'environnement de bureau, donc par exemple entre le GNOME ou le KDE ou l'XFCE, donc ça c'est des trolls sans fin en fait, et pour les préférences en matière d'ordinateur aussi, de console de jeu, par exemple une console de jeu contre une autre, ou de système d'exploitation, par exemple du Windows contre du GNU Linux ou du macOS, donc toujours une bataille qui en fait ne mène à rien.
Sinon, à monopoliser un petit peu l'espace, et comme on l'a vu, pas seulement limité, on va dire, au sujet relatif à l'informatique, puisque voilà, hein, on disait pour les marques de voitures, ça peut être les marques de fringues, hein, les jeunes sont particulièrement attentifs aux logos qui figurent sur leur survêtement, même si c'est exactement le même survêt qui est fabriqué dans la même usine quelque part sur un autre continent.
Ouais, par exemple, on a lâché quelques trolls sur le chat de Divergence et apparemment la pêche n'est pas aussi bonne que ça. Par exemple, on va mettre par exemple du Windows partout à la radio et passer sur logiciel propriétaire, n'est-ce pas
Mais personne n'a réagi parce que
tout le monde dort.
Personne nous croira de toute façon.
Il est trop gros. Alors un troll trop gros justement, il est trop visible et donc forcément il est détruit avant même qu'il soit né, j'allais dire.
Mais notons quand même une chose, c'est que nous on est des petits, on est là, on fait de la radio non commerciale, machin, patin couffin, mais quelque part, plus on a de pouvoir, plus on représente quelque chose, plus on peut en sortir des gros que tout le monde va gober, on le voit bien avec nos chefs d'État depuis quelques temps, qui n'hésitent pas, plus la connerie est énorme, plus les gens vont de toute façon la gober, et c'est une stratégie qui est de plus en plus à la mode dans divers pays d'Europe. et dont on a déjà vu depuis fort longtemps l'efficacité aux États-Unis, par exemple.
Et oui, donc le troll est présent partout, méfiez-vous quand même.
Méfiez-vous des contrefaçons.
Aussi.
Ce n'est pas le sujet du jour, on aurait pu faire effectivement revenir sur l'ACTA, le traité européen, enfin le traité, on va dire, un drôle de truc discuté entre la World Company et la Commission européenne pour, on va dire, au prétexte d'interdire la contrefaçon, s'approprier les décisions de certains États souverains en ce qui concerne la fabrication de médicaments génériques, les biens communs et se les approprier, enfin voilà. Voilà, c'est des sujets qu'on rebat souvent et qui, eux, ne sont pas vraiment des trolls puisqu'ils font, certes, débat un petit peu partout et avec des débats quand même un petit peu plus sérieux.
Alors, on vous invite à vous reporter sur les liens de l'émission qui vous donneront d'autres liens qui vous amèneront sur qu'est-ce que le troll pour vous documenter un petit peu plus. Des articles aussi sur usine.net, par exemple. On parle du troll, chercher troll par exemple sur des moteurs de recherche, vous verrez ce que ça donne. On peut peut-être poursuivre comme ça avec, voilà, il y en a même qui font des livres quasiment. Et généralement, qu'est-ce qu'un troll? C'est toujours une réponse donc de l'adage, disons l'adage qui est donné avec, donc ne nourrissez pas le troll.
Voilà, simplement, ne répondez pas. Si vous recevez un mail d'un type qui vous casse les pieds, eh bien...
Le plus simple, c'est la non-réponse.
Le plus simple, c'est de filtrer l'expéditeur vers la corbeille pour ne plus avoir à perdre de temps avec ça. Et c'est vrai que c'est un mal du siècle, les gens qui, finalement, perdent leur temps à exprimer des idées qu'ils n'auraient jamais eu l'idée d'écrire sur du papier et de publier sans Internet.
Tout à fait, oui. Donc le troll est évidemment en origine donc sur ces forums de discussion, sur des mailing lists, etc. Donc qui mettent en jeu, ou même sur des chats hein, donc en ligne, qui mettent donc en jeu plusieurs personnes pour pouvoir lancer. Des fois c'est du combat, c'est comment on le lance comme ça. Alors il y a un jour très particulier en France qui est le troll dit. Le troll dit, c'est un jour qui est apparu il n'y a pas très très longtemps et qui est généralement le vendredi où on se lâche et on lance du troll. Et on dit, ah ben ça c'est un troll. Alors le seul problème du troll dit, c'est que toutes les nouvelles qui pourraient être bonnes sont considérées évidemment comme des trolls évidemment potentiels. Donc ça décrédibilise les nouvelles qui peuvent être postées ce jour-là.
Et en attendant, eh bien, avant de terminer et de vous donner quelques petits rendez-vous d'agenda du libre, un autre titre de Boards of Galaxy qui viendrait du Yémen, apprend-on sur la page Dogmazic.
En fait, c'est tout faux parce qu'ils viennent de Wonderland.
Voilà, et donc, je me disais que c'était bizarre.
À part la Toulousaine, peut-être, qui est un petit peu plus réaliste, ils doivent à peu près graviter au même endroit. En tout cas, ils sont dans d'autres galaxies. Et c'est toi, Gilles, qui va présenter le dernier titre.
Alors, le dernier titre, eh bien, je vais non pas vous le présenter, mais vous le faire écouter.
Still looking very good. Here go. Copy. Bravo 1. Roger, 1201 alarm.
1201 alarm.
Set time for go flight.
Okay, we're go.
We're go. Great time. We're go.
Altitude 1600.
Eagle looking great. Roger, 1202. We copy it. 35 degrees. 750. Coming down to 23. 540 feet at a 15. 10 at 50 feet, down at 4. Altitude, velocity, light. 3.5 down, 220 feet. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 875 feet, that's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds.
Lights on. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Big shadow. More forward, drifting to the right a little. 30 seconds. Forward.
One is calling home, c'est avec Boards of Galaxy que nous allons vous quitter avec quelques tout de même nouvelles de l'agenda du libre.
Gilles, tu auras remarqué que ce sont des extraits de donc Eagle One qui est le module lunaire de la NASA qui s'est posé sur la Lune ou en tout cas dans le studio c'était qui filmait, c'était Stanley Kubrick, non, qui avait...
Alors oui, ça c'est un troll.
Ah mince.
C'était le sujet du jour. Oui, les Américains sont-ils vraiment allés sur la Lune un certain mois de juillet 1969
et qui a mis le premier pas sur la Lune? Est-ce Monsieur Aldrin ou le caméraman qui le filmait?
Oui, ou Copernic. Allez savoir,
je ne sais pas.
On ne sait pas, ma bonne dame, tout ce
en
qui
se passe
dans notre
dos. En tout cas, un troll fait réfléchir.
Oui, ça fait réfléchir.
L'agenda du libre.
L'agenda du libre a commencé par ce vendredi 18 février de 14h30 à 18h30, la maison pour tous, Mélina Mercouri, 842 rue de la Vieille Poste à Montpellier, bus ligne 9, la ronde Arrêt-Pinville, qui accueillera l'association Montpellier Libre et ses partenaires pour organiser le troisième vendredi de chaque mois. Donc, ce sera de 14h30 à 16h30, un atelier libre où seront abordés tout ce qui peut vous intéresser, comme la bureautique internet, la PAO, le webmastering, le multimédia et tout ça. Là, ce sera ce coup-ci une présentation de GIMP, un logiciel libre et gratuit de traitement d'images et de retouches.
Il y aura aussi de l'installation de distribution GNU Linux également ce vendredi 18.
Oui, c'est ce que j'ai cru voir passer
tout à fait, suite à plusieurs demandes de personnes. Donc, ce sont des ateliers qui sont ouverts à toutes et à tous. Vos hebdomadaires, rendez-vous à la médiathèque de Téran pour logiciel Audacity OpenShot vidéo.
Toujours ce vendredi 18, de 16h à 18h.
Absolument. Alors on poursuit le 22, c'est le mardi, à Castelnau-le-Lez, les ateliers libres section Linux à la MJC de Castelnau.
De 14 à 16h, on vous présentera tout ce que vous voulez qu'on vous présente, que ce soit l'administration du système, l'installation, l'utilisation quotidienne, la programmation, la tech, tout ce que vous voulez. Ça se passe donc à Castelnau ce 22 février.
Alors le 22 février également, de 14h à 16h, toujours à la médiathèque de Terrain, place du Ballon, un atelier openoffice.org ou LibreOffice maintenant de 14h donc à 16h.
Et c'est ainsi que je crois que nous allons refermer, mon cher
sans
Pascal.
Sans oublier, jeudi prochain, les derniers jeudis du Libre à Montpellier. Ça doit se passer au Baloir à partir de 20h. C'est donc le 24.
Voilà, et le 24, ce sera aussi l'heure de nous retrouver, mes bons amis, de la librairie et de la divergence autour d'un thé et d'un micro pour cette émission.
Pour la 99e.
Nous d'un petit bonhomme.
Va falloir préparer la 100e quand même.
Ouais, ouais. Ouh là 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 là, quel enfer. Allez, salut.
Allez, ciao. Terror States.